Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h, vous écoutez Mathieu Béliard.
Et les grandes voix, j'étais en train de discuter avec les grandes voix, j'en profite, c'est le vendredi soir, elles arrivent en studio, c'est voix. Michel Cotta est avec nous, bonsoir Michel.
Bonsoir.
Catherine Ney également, ça va Catherine?
Oui, oui, très bien.
Bonsoir Catherine. Gérard Carrero aussi.
Bonjour,
tout va bien,
très bien. Oui,
chers amis, nous allons revenir sur l'actualité de la semaine, sur ce qui nous attend aussi. Les manifestations du 1er mai, les propos de Christophe Castaner, les élections européennes avec vous, avec ceux qui souhaiteraient intervenir également au 39-21, n'hésitez pas. Mais à 19h21, nous accueillons Benjamin Muller.
Bonsoir Mathieu, bonsoir les grandes voix.
Ça va
bonsoir,
Benjamin
ça va, très bien.
Comme chaque vendredi, on fait le bilan, oui c'est vrai, le bilan de ce qui s'est passé toute la semaine dans cette émission, dans le grand journal du soir. Alors c'était comment cette semaine Benjamin?
C'était super, franchement, de la vie générale, j'en ai parlé avec les grandes voix, c'est ce qu'ils me disaient. Et déjà on est content parce que depuis que c'est vous qui animez la tranche, on a remarqué un truc, on reçoit beaucoup, beaucoup plus d'appels d'auditeurs au 39-21, enfin... Quand je dis d'auditeurs.
C'est la question que nous posions, énormément d'appels, essentiellement, quasiment exclusivement féminins. Lynn est avec nous.
Eh oui, Mathieu Béliard, qu'on appelle l'aspirateur à auditrice. C'est vrai que des femmes appellent par milliers chaque jour, rien que pour vous parler à vous. Et cette semaine, vous avez décidé de le signaler à l'antenne.
Mais comme tous les soirs, vous souhaitez intervenir, vous avez été nombreux, nombreuses, dire, pour être précis. Par
oui,
contre.
C'est important d'être précise, Mathieu. Alors, il faut revenir sur
On parlait d'allaitement hein, ce soir-là.
Oh, pas du tout, vous parliez de la politique.
Et messieurs, nos auditeurs masculins m'ont lâché.
Sur ce coup-là, c'est vrai qu'ils n'étaient pas là. Alors il faut revenir, Mathieu, sur le drame. On va redevenir sérieux, éviter de peu. Lundi, on a failli perdre Omblin en direct. Tout ça à cause de roulettes que quelqu'un a installées, on ne sait pas qui, installées sous sa chaise.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard.
Oh non.
Pardonnez-moi, j'ai glissé
de
ma chaise.
C'est roues. Hein, ça glisse pas mal. Qui m'a mis des roues sous la chaise.
Pauvre Omblin. Mais heureusement, Mathieu, en grand seigneur, était là pour la soutenir.
J'en appelle tout de suite à notre service web. Hein, si vous pouvez avoir un petit gif animé de cette séquence.
Voilà, c'est très important d'être bon camarade. Merci Mathieu, traître, dit Omblin. Bon camarade, en toutes circonstances, c'est important de se serrer les coudes.
Le standard d'Europe 1 est ouvert jusqu'à 20h39, 21, 50 centimes la minute, merci.
Arrosé ce week-end ou tout va bien?
Alors Mathieu, à cause de vos petites perfidies, vous avez froissé Omblin qui du coup toute la semaine, elle m'a envoyé plein de messages sur WhatsApp pour me dire « Benjamin, n'oublie pas d'écouter mardi là, 17h42 précise et jeudi 18h36 !» Donc j'ai voulu savoir quel extrait elle voulait que j'écoute.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous. Eric?
Oui, allô?
Oui. Les manifestations du pardon Thierry, je ne sais pas pourquoi je vous ai appelé Eric. Thierry, les manifestations du 25 mai, du 1er mai, non. je vais y arriver ce soir.
C'est ça.
Honnête.
Pauvre Mathieu, mais oui, il faut qu'on explique à Omblin. Mathieu, il est père de 3 enfants, il se lève 10 fois par nuit. C'est normal qu'il ait des petits coups de fatigue, vous
si
savez.
Ma femme vous entendez. Une question très simple. Est-ce qu'on va trop vite en besogne? Est-ce qu'on met la charrue avant les œufs?
Mais oui, ça passe, Omblin, arrêtez de vous moquer. Oui, Omblin a un commentaire.
Chaque jour, la peau de votre visage subit des agressions qui altèrent son équilibre. Cutanée plutôt que de la surtraiter. Il est indispensable de la nettoyer.
Et oui. Merci Omblin, voilà, merci beaucoup pour ce petit rappel, ça valait le coup. Je prends. Alors pour redevenir sérieux, Mathieu, grosse semaine pour vous, puisqu'en plus du reste, vous remplaciez Sonia Mabrouk toute la semaine pour l'interview politique. J'espère que Sonia ne vous a pas écouté, comme par exemple hier avec l'insoumis Adrien Quatennens, sinon elle va avoir peur que vous lui piquiez sa place.
Ah si, j'ai une question que je voulais vous poser. Vous faites de la sieste, Adrien Quatennens?
Non, mais on me l'a conseillé, on me dit que ça peut servir.
Allez, paf, réponds à ça l'insoumis. Ça m'a rappelé cette autre question il y a quelques temps au très sérieux Brice Hortefeux.
Vous êtes tatoué, Brice Hortefeux?
Et je fais partie...
Vous n'êtes pas obligé de répondre.
Mais si, répondez. Catherine, Michel, Gérard, ça a changé les interviews politiques sur Europe 1, non?
Rassurez-vous, Sonia Mabrouk revient lundi en pleine forme, reposée à partir de 19h10, évidemment pour l'interview politique de votre grand journal du soir. Il est 19h24.
Europe 1.
Bon week-end, Benjamin. Le débat avec les grandes voix dans quelques secondes. Non, on peut démarrer maintenant, remarque. On va quand même faire un premier petit tour de table sur cette manifestation du 1er mai d'abord. On va évidemment reparler de Christophe Castaner. Votre regard sur la mobilisation, qu'elle soit syndicale, celle des Gilets jaunes, qui veut prendre la parole en premier, Gérard peut-être.
Écoutez, alors la mobilisation, elle a été quand même assez forte. On a beau compter 165 000 personnes, je crois, selon les uns, et le double selon la CGT. Je pense que la vérité était autour de peut-être 180 000, 200 000, ce qui est quand même beaucoup de monde pour un 1er mai. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, c'est qu'il y avait effectivement différents groupes, et que, normalement, le 1er mai, c'est le groupe des syndicats qui fait la loi, et on peut dire que cette fois-ci, c'est pas le groupe des syndicats qui a fait la loi, c'est à la fois le groupe des Gilets jaunes, un peu le groupe des Bad Blocs qui s'infiltraient, et puis finalement, Au résultat final, on peut dire que aucun des trois n'a marqué le point et que finalement, c'est l'État qui a marqué le point à travers le fait qu'il n'y a pas eu trop de casse. On avait dit il y aura l'apocalypse now, hein, comme on disait dans le cinéma. Eh bien, il n'y a pas eu l'apocalypse now, il y a eu un peu de casse. Mais il y a eu... Alors, le point eût été marqué pour le gouvernement et pour le président de la République s'il n'y avait eu, mais on va y revenir, s'il n'y avait eu l'attaque de la pitié salpêtrière.
Michel Cotta.
Oui, non, mais je trouve que moi, pour les syndicats, pour la CGT, c'était un échec, parce que la manifestation du 1er mai est passée complètement inaperçue de là-bas. Et qu'en revanche, l'attitude plus intelligente du secrétaire général de la CFDT, qui a été de condamner les violences le matin en faisant son 1er mai à lui. Donc je trouve que c'est un échec pour le secrétaire général de la CGT.
De la CGT, Philippe Martinez.
Et je trouve, moi ce qui m'a beaucoup surpris, j'habite sur le parcours, hein, donc j'ai tout suivi, je peux vous dire. Je pense, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est les applaudissements des Gilets jaunes quand les Black Blocs sont arrivés sur la place Montparnasse. Bon, il y a eu des applaudissements nombreux et je pense quand même que l'ensemble de la manifestation aurait été différente si l'offensive contre les Black Blocs ne s'était pas passée au niveau du Select, c'est-à-dire pour les gens qui connaissent ce quartier, au niveau d'un bar où, dans lequel les forces d'ordre ont pu rompre, casser, diviser les Black Blocs. Et je pense que la suite de la manifestation, qui s'est passée relativement normalement, quoi, a été expliquée par cette intervention policière. Et on y reviendra parce que c'est une stratégie différente qui, néanmoins, a réussi.
Catherine ?
Oui, moi je crois que ce 1er mai est un désastre pour la CGT parce qu'on a dit... Mélenchon disait « Ah, enfin, c'est la convergence des luttes entre les jaunes et les rouges ». Eh bien, ça n'a pas du tout été ça. Et ça a été pourquoi un désastre ? Parce que ce qui faisait la force de la CGT, c'était son appareil. C'était son appareil parce que chaque grande manif du 1er mai était préparée en amont avec toutes les unions départementales et en négociation aussi avec la police. Hein. On se partageait le travail. Là encore, il y a eu des négociations, il y a eu les manifestations ont été préparées, mais ce qui manque maintenant, c'est la force de frappe. Il y a moins de gens pour tenir les manifs, qui fait qu'avant, une manif de la CGT, on était sûr, il n'y avait pas de morts, il n'y avait pas de blessés. C'était bien, c'était tenu. Puis on voyait on les a vus quelquefois, des gens qui avaient des bras. On se disait, tiens, si on attrape un pain, ça doit faire mal. Donc on en avait peur, des gens de la CGT. Et bien là, c'est la CGT qui a eu peur, et des gilets jaunes et de la police. Qui a été débordé.
19h28. Europe 1. On revient dans un tout petit instant, retour sur cette mobilisation du 1er mai, et donc sur cette phrase de Christophe Castaner qu'il a regretté, il a rétro-pédalé comme on dit aujourd'hui. Je n'aurais pas dû employer le terme attaque, mais intrusion violente. Nous en parlons avec les grandes voix, restez bien sur Europe 1.
Mathieu Béliard et les grandes voix d'Europe 1 le vendredi soir. Michel Cotta, Catherine Ney et Gérard Carrérou.
Alors, est-ce qu'on peut dire, puisqu'on a parlé des manifestants, qu'ils soient syndicalistes, gilets jaunes, black blocs, est-ce qu'on peut dire que ça a été une réussite en termes de maintien de l'ordre ? Il y a eu le changement de doctrine, il y a un nouveau préfet, on a beaucoup parlé avant cette manifestation. Comme disait Gérard, on nous a fait craindre l'apocalypse. Est-ce que ça a été une mission accomplie par les forces de l'ordre, Michel ?
Oui, alors je ne suis pas sûre. Évidemment, on peut toujours dire que l'apocalypse attendue était au fond vendue avant pour un peu dégonfler le mouvement. Alors ça, évidemment, j'en sais rien. Mais en attendant, on voit très bien que on a vu de près la différence des stratégies entre l'ancien préfet de Paris et le nouveau. L'ancien, il n'y avait pas de contact, donc effectivement... pas trop de heurts, mais en revanche, tout était cassé par derrière.
Bon. C'était là, la c'est doctrine depuis des années de maintien de l'ordre.
C'est la doctrine qui fait, et d'ailleurs, c'est la doctrine à laquelle faisait allusion votre interlocuteur tout à l'heure, c'est la doctrine
Malikoussekine. Oui.
C'est-à-dire, attention, et donc,
pas de contact.
Là manifestement, c'est des contacts rapides, une autonomie des équipes, et comme je vous l'ai dit, moi je les ai vus disperser les Black Blocs, et ça, c'était c'était efficace. Maintenant, évidemment, on voit bien qu'on est sur une ligne de crête difficile, parce que si on va au contact, il y a des blessés. Et il y a des blessés des deux côtés. Et il y a surtout des blessés du côté des manifestants. Voilà, la doctrine, c'est l'envers de la doctrine, évidemment.
Oui, on a même, pour la première fois, moi j'ai été frappé de voir, je les ai vus passer aussi comme Michel, parce que j'aime bien mettre un peu mon nez dans les manifs, j'ai vu passer les motocyclettes, les petites motos. Oui. C'est pas des motocyclettes, oui, d'ailleurs, c'est des petites motos très nerveuses, avec deux types dessus. C'était Pasqua qui avait lancé ça.
Les voltigeurs.
Et c'est eux qui avaient...
Après la mort de Malik Houssekine, on a arrêté, effectivement, parce qu'on a dit, c'est trop dangereux, il peut y avoir d'autres morts. C'est la première fois qu'on revoit, effectivement, ces pelotons donc, de motocyclistes, celui qui conduit la moto, qui fonce...
Si elles n'ont pas été modernisées depuis, qui... elles...
Oui, non, elles sont très modernes. Et je crois, effectivement...
La différence, pour être précis, parce qu'évidemment, on a beaucoup échangé aussi avec les services de police, c'est que là, c'est pas pour taper, c'est pas pour cogner, aller au contact de cette manière, c'est pour se déplacer. Il n'y a pas le grand bâton qu'il y avait dans les années 80 qui balaye avec
le bras armé. Mais ça a un effet, parce que c'est, vous savez, quand vous êtes piéton, dans une manifestation, que vous voyez arriver 10, 12, 15 de ces motos qui arrivent vite, ça a un effet extrêmement dissuasif. Vous avez tendance à prendre vos jambes à votre cou et à courir.
Moi qui n'ai pas été voir la manif et qui a regardé comme beaucoup de gens simplement sur les chaînes, sur BFM, on voyait cette foule et on avait beaucoup de mal à comprendre qui était qui et qui faisait quoi. Parce que de loin, distinguer entre un flic et un black bloc casqué tout en noir, alors il y avait des gilets jaunes, il y avait un peu de rouge, on ne savait pas, et c'était des mouvements de foule, on ne savait pas comment elles se répercutées les unes et les autres. C'était très très compliqué et je pense que sur le terrain, pour les services d'ordre, ça devait, et puis même pour la CGT, parce que pourquoi est-ce que le Martinez a été exfiltré? C'est parce qu'à un moment, justement, comme il y avait une arrivée de policiers, il s'est trouvé pris entre les Black Blocs et la police, et des Black Blockers voulaient lui envoyer des bouteilles sur la figure. Et beaucoup de gens de la CGT ont été molestés par les Black Blocs. Donc, alors là, la convergence des luttes, bonjour.
En termes de maintien de l'ordre, d'ailleurs, c'est intéressant, il y avait Loïc Travers du syndicat Alliance qui était ici mercredi soir, et qui nous expliquait que juste devant la CGT, les Black Blocs commencent, vous savez, ils commencent à se former, ils se mettent en noir, ils se masquent d'un seul coup, et c'est à ce moment-là précisément que la police intervient tout de suite.
C'est ça le changement. Voilà. Mais en termes de maintien de l'ordre, je crois qu'on sera tous d'accord, là, tous les trois, pour dire, en termes d'opération de maintien de l'ordre, c'est 8 sur 10 pour la police, là. Ouais. C'est réussi. Il n'y a pas de doute que c'est réussi parce qu'on n'a pas eu la casse maximale qu'on aurait pu avoir. Alors évidemment, après, il y a l'autre aspect qui est quand même l'affaire... C'est un gâchis, à mon avis, un petit peu, pour Castaner. Parce que Castaner aurait pu dire, regardez comment maintenant on peut maîtriser ces manifestations... Et le voilà qui s'est enferré avec une attaque. Alors pourquoi a-t-il fait cette déclaration très outrancière, qui était de dire l'attaque. Il l'a fait, à mon avis. Alors si c'était simplement une erreur de langage, moi je veux dire, bon, on peut de temps en temps se laisser aller à certaines erreurs de langage. Encore que le ministre de l'Intérieur doit quand même à un moment donné être aussi un personnage qui apaise et pas un personnage qui excite. Mais je crois qu'il a voulu jouer le coup politique. C'est ça que je lui reprocherais le plus.
Je suis absolument pas d'accord avec toi. Je sens qu'il y a des désaccords autour de la table. Je le vois. Michel Cotta, Catherine Ney, Gérard Carrero, vous restez avec nous.
Je suis à moitié d'accord avec toi.
19h36 sur Europe 1, le débat des grandes voix qui continue.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et avec les grandes voix d'Europe 1, Michel Cotta, Catherine Ney et Gérard Carrero.
Alors Christophe Castaner qui disait ce matin, je n'aurais jamais dû employer le terme attaque mais intrusion violente. Je vous ai interrompu en plein débat, Michel Cotta, Catherine Ney, Michel.
Non mais on trouvait que, moi je trouve personnellement que Gérard crie au coup politique. Moi je ne vois pas du tout le coup politique. Je vois... Effectivement, la précipitation. Ouais, il fallait voir les images aussi. Et ils ont pas été, il n'a pas été seul à exprimer son, sa terreur devant l'intrusion violente.
Non, parce il a bien expliqué d'ailleurs ce matin que c'était tout de la faute de la directrice de l'hôpital.
Bah, la directrice de l'hôpital, Martin Hirsch. On a entendu Martin Hirsch aussi. Bon, donc c'est de la précipitation.
Il n'avait regardé que BFM.
Ouais, c'est de la précipitation, sûrement. Et donc, effectivement, un ministre de l'Intérieur doit être capable de résister à ses émotions. Bon, mais ceci étant... Il y avait quand même intrusion, et on comprend en tout cas sa réaction, mais comme toujours, c'est trop rapide, c'était trop rapide, oui, alors, c'était une connerie.
Est-ce que je peux vous donner une précision ?
D'abord, Catherine.
Pourquoi est-ce que Christophe Castaner était à l'hôpital de la Salpêtrière ? C'est pas du tout parce qu'il avait. Il est venu visiter, voir le policier blessé pour l'encourager qui avait reçu un pavé sur la tête. Et là, évidemment, il a été accueilli par la directrice, qui lui a appris ce qu'il ne savait pas. C'est-à-dire, et elle lui a dit avec des mots assez forts, en disant ils étaient agressifs, je ne pouvais pas les tenir, ils sont arrivés. Et puis après...
Elle a eu
très peur. Et il a vu des personnels enseignants qui ont dit, mais oui, on a eu très peur. Les mêmes personnels enseignants ont après, baissé d'un ton. Donc lui, il a trouvé ça tellement énorme qu'il a dit, c'était une attaque, c'était bon. Et puis après, là, dans la soirée, il y a eu des informations contraires, mais on a vu qu'il fallait que c'était pas tout à fait une attaque, que des gens vraiment avaient forcé la porte, étaient entrés à l'hôpital, la grille, ça évidemment ça ne se fait pas, mais qu'ils avaient été moins violent que ce que la directrice l'avait dit. En tous les cas, ceux qu'elle a vus étaient peut-être violents, mais ceux que certains infirmiers ont vus l'étaient moins. Donc c'est très difficile. Mais en tous les cas, le mot attaque était peut-être surdimensionné.
Oui, quand je dis... Quand vous,
non, mais il n'est pas venu pour dire...
Il a fait ça pour faire un coup politique.
Gérard, défendez-vous. Ce que j'ai dit, c'est j'ai dit effectivement, Castaner, depuis le début de cette crise, depuis qu'il est ministre, cherche effectivement l'erreur des gilets jaunes ou de... il a raison de chercher l'erreur, mais il n'a pas raison effectivement de se lancer dans une déclaration comme celle qu'il a faite en l'absence d'informations sérieuses. Très franchement, même la directrice, si tu veux, elle a bien mis de l'eau dans son vin.
Après,
et quant au tout l'ensemble des personnes,
je précise qu'il n'a plus beaucoup parlé non plus.
Tous les journalistes ont quand même dit la même chose
que Écoutez, si vous n'êtes pas capable, bien évidemment vous l'êtes, vous, mais quand on parle à l'opinion, il faut être prudent. Si on n'est pas capable de dire de l'effet dans une opinion publique, dans un pays où il y a déjà effectivement depuis 6 mois des manifestations, des violences, etc. Parler de l'attaque d'un hôpital avec la symbolique extraordinaire d'un hôpital. Un hôpital, c'est fait pour soigner, c'est fait pour les blessés, c'est fait pour les... Bon. Et l'attaque d'un hôpital, c'est la pire des choses qu'on peut faire. C'est comme dans une guerre quand on dit les avions de la coalition ont tiré sur un hôpital. C'est terrible en termes d'impact d'opinion. Je pense que quand on est ministre de l'Intérieur, on ne peut pas se lancer dans cette déclaration sans avoir des éléments effectivement
plus probants. Mais si c'est une faute, au moins une grosse gaffe. Quoi,
alors, une grosse gaffe.
Non, ça aurait été un scandale, je vais vous dire.
Je ne demande pas sa démission. Moi, au nom de quoi je demanderais sa démission. Mais je dis simplement, il a fait une grosse faute, et depuis le début, il en a fait d'autres.
Michel Cotta.
Je trouve que c'est nettement exagéré, parce que franchement, être ministre de l'Intérieur aujourd'hui, depuis 24 semaines, moi, je ne voudrais pas être à sa place. Mais bon, je crois que ça aurait été un grand scandale. On est tout à fait d'accord si les gens qui étaient entrés à l'intérieur de l'hôpital avaient été sortis sans précaution et avec beaucoup de casse. Or, ils ont été sortis, on les a vus. Là aussi, on voit les images des policiers les raccompagnant gentiment à la sortie. Mais ça aurait été vraiment très embêtant de dire ça s'il y avait eu un... Mais là, bon, c'est une erreur d'appréciation, on est d'accord, c'est une erreur d'appréciation dans un moment très court. Erreur d'appréciation que tous les journalistes ont relayé, je vous rappelle, sur le moment, vraiment...
Sans l'intervention des forces de l'ordre, on courait à la catastrophe.
Oui.
La catastrophe, ça aussi, c'est un mot surdimensionné, quoi.
Martin Hirsch n'est pas ministre de l'Intérieur, donc personne ne s'en est pris. lui, mais il est largement coupable.
Ben oui.
Il est largement responsable de cette grosse faute, ça c'est clair. Mais simplement, Michel, pour aller jusqu'au bout, il y a eu 32 personnes qui ont quand même été interpellées et mises en garde à vue pour, effectivement, violence, intrusion violente.
Bon. Ils sont
Les 32, ben oui, pourquoi ? Vous vous êtes pas demandé pourquoi ils ont été mis en garde à vue quelques heures et immédiatement relaxés. Parce que les juges, à ce moment-là, ont vu immédiatement qu'il n'y avait pas de charge, il n'y avait pas des éléments de charge suffisants.
Il n'y avait pas de charge de police aussi.
Non, il n'y avait pas de...
Parmi eux, il y en avait qui avaient déjà eu commis des actes de violence, enfin qui avaient déjà un pédigré de violence.
De toute façon, il faut dire que... attendez, on parle de quand même 6 mois qui viennent de...
24 semaines. C'est la
24e. 24 semaines. Bon, ça veut dire quand même que... c'est vrai que le danger croît avec le temps, le danger de la bêtise des uns et des autres et le danger contre les manifestants ou contre les forces de police d'ailleurs. Mais moi, ce que je trouve absolument intolérable, c'est le traitement qui en a été fait immédiatement. Je ne dirais pas seulement par la gauche. Moi, je comprends très bien que Mélenchon dise immédiatement « Ah, mais quoi, les forces policières ont exagéré, etc. » Moi, je comprends ça très bien de la part de Mélenchon. Mais je dois dire que quand j'ai vu Bruno Retailleau ce matin demander pratiquement une commission franchement, je veux dire, de la part de cette droite qui passe son temps à dire « Ah oui, mais on est trop mou avec les manifestants », le jour où on n'est pas attaqué le ministre de l'Intérieur, ça, franchement, fallait l'entendre pour le croire. Voilà.
Oui, mais on entend aussi Patrick Kanner, qui est socialiste, ancien ministre socialiste,
et puis Valérie Rabault à l'Assemblée nationale.
Et d'autres socialistes. Ce que je veux dire, c'est que ça passe cette droite nous décrit comme jusqu'au boutiste de l'ordre. Elle l'est parfois, c'est le parti de l'ordre. Mais en attendant, c'est le parti de l'ordre aujourd'hui, c'est Macron.
Encore une fois, de la gauche, avec les excès, on peut se dire, bon, c'est pas leur problème. De la droite, on attend autre chose dans des circonstances de ce genre. La responsabilité, en tout cas, me semble mal assumée.
19h45.
Europe 1.
Le débat avec les grandes voix qui continue. Catherine Ney, Michel Cotta, Gérard Carrérou, à tout de suite sur Europe 1.
À vos côtés jusqu'à 20h, Mathieu Béliard, les grandes voix d'Europe 1, Michel Cotta, Catherine Ney, Gérard Carrérou.
Le débat des grandes voix jusqu'à 20h, on est ensemble et nous allons ouvrir une page sur les élections européennes dans moins d'un mois maintenant. Alors, notre sondage réalisé par l'Institut BVA pour la Tribune Orange et Europe 1 hier donnait toujours La République en marche, mais ça se resserre vraiment avec le Rassemblement National. On peut peut-être commencer par cet aspect-là. C'est très serré, certains sondages donnent le Rassemblement National devant. Il est là le match, hein, de toute façon, depuis le début, on le sait, Gérard.
Bien sûr, le match, il est là. De deux choses l'une, où c'est effectivement la liste de Mme Loiseau qui est en tête, et on pourra dire à juste titre que c'est une victoire, même si elle fait un point de plus, c'est une victoire pour le gouvernement et pour Macron, ou bien alors c'est le contraire et c'est Mme Le Pen, la liste de son poulain, de son jeune poulain qui est en tête et qui effectivement, on dira, c'est une défaite politique pour Macron. C'est, au fond, les élections européennes, aujourd'hui, elles se résolvent à cette question. Est-ce que c'est la liste Macron ou est-ce que c'est la liste Le Pen qui gagne ? Parce que dans la tête des gens, il reste la présidentielle, le premier tour de la présidentielle avec ces deux personnes qui étaient effectivement le premier et le deuxième et ceux qui ont fait le deuxième tour. Donc, est-ce que c'est une revanche ? Est-ce que ça apparaîtrait comme une revanche ou pas ?
Michel Cotta.
De toute façon, Emmanuel Macron a raison de dire, comme il l'a dit il y a 2-3 jours, que en effet, le nombre de voix obtenues maintenant par la liste La République En Marche est en deçà de la cote de popularité la plus faible qu'il a jamais eue. Alors ça, c'est quand même effectivement intéressant. Alors, est-ce que c'est la tête de liste qui embraye pas ? Moi, je pense qu'il y a vraiment une grosse responsabilité de Nathalie Loiseau.
De Nathalie Loiseau.
Qui
démarre pas.
Elle est tout à fait compétente.
Elle a la connaissance de l'Europe.
Vous savez, en politique,
mais elle a mis tout son combat sur l'affrontement face au Rassemblement National. Si elle est derrière...
son combat et sur l'Europe, et sur le... Elle le met où il est, d'ailleurs. Elle le situe où il est, l'affrontement. Alors, je crois quand même que quelques têtes de liste, par exemple la tête de liste du Front National, qui était ce jeune homme.
Jordan Bardella.
Tellement, alors qu'au début on se disait d'où il sort, il est tellement plus offensif, plus présent. Il y a quelque chose de non présent dans la candidature de Nathalie Loiseau, je trouve. Et ça, je trouve que c'est, quand on nomme une tête de liste, c'est une erreur terrible.
Catherine Ney ?
Oui, enfin, on peut dire que la campagne n'a pas commencé non plus. Là, ouais. On va entrer dans le... Mais voilà, ouais. est-ce qu'elle va commencer ? Moi, je crois, l'un des handicaps de la liste d'Emmanuel Macron... C'est qu'il a beaucoup parlé d'Europe, mais on ne sait pas quel est le programme, au fond, quelle est la vision de cette liste. On sait à peu près pour Mme Le Pen, puisqu'elle est... voilà, c'est encore qu'elle, est encore qu'elle a beaucoup...
pour tout
encore,
à la fois.
Oui, même
oui,
si
mais
elle a changé
d'avis. Voilà. Donc, il y a ça qui n'est pas encore tout à fait fixé. Je crois que l'attractivité de Mme Loiseau n'est pas encore prouvée, ça.
L'attractivité de l'Europe n'est pas prouvée non plus en ce moment.
On ne sait pas. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, puisque Emmanuel Macron vit quand même avec des oppositions qui sont très rudes vis-à-vis de lui, c'est aussi pour les oppositions. Combien vont-ils peser ? Je veux dire, Mélenchon, je veux dire combien va peser la France insoumise ?
Moi, je veux bien, mais Catherine, vous avez raison, parce que, encore une fois, on peut dire tout le mal d'Emmanuel Macron, de La République En Marche, mais ils sont toujours devant. Et les autres aimeraient bien, enfin, que ce soit Bellamy, que ce soit Mélenchon, que ce soit Jadot, que ce soit
Oui, parce que Mélenchon, il avait fait presque 20% à la présidentielle. S'il fait 10 ou 11%, on peut dire que la France insoumise est quand même en perte de vitesse.
Lui dira, c'est parce que c'était pas
mais
moi.
Oui, parce que c'était pas moi, il n'a pas voulu y aller.
Après le premier tour de la présidentielle, il y a 4, maintenant, clairement, il y a 4 quarts, enfin, 4 quarts inégaux, mais il y a 4 quarts. Or, de ces 4 quarts du premier tour de la présidentielle, on ne voit qu'il n'en reste que 2, parce que la liste, effectivement, des Républicains, même si M. Bellamy a l'air de faire plutôt un résultat intéressant, elle est quand même autour de 15, plus ou moins 15.
Ouais. Hein. Pour les Républicains,
et quand
il est remonté.
Il part de loin. Mais ce qui est la barre importante pour les là, c'est la barre des 20. La barre des 20. C'est ceux qui feront 22-24 ou pas.
Et puis surtout, ça montre que la gauche n'a pas su se remettre d'aplomb. À la rigueur, la droite et Républicains donc le font cas à cas, mais ils sont en train de le faire. Hein. 15%, c'est pas le chiffre obtenu en 2017, mais enfin c'est un chiffre par rapport à où il partait, c'est pas mal. De l'autre côté, la gauche, alors ça offre un spectacle, enfin c'est vraiment un spectacle lunaire, avec des gens qui vont droit vers 3-4%, on peut pas brancher une antenne sans entendre immédiatement un candidat de gauche attaquer en premier un candidat de l'autre gauche. Bon, ça, effectivement, on jugera aussi à la fin.
Je disais ça,
que la gauche était incapable de se reconstruire.
Manuel Valls qui disait la gauche peut disparaître. Oui, c'est en train de se passer sous nos yeux, là, non ?
Ben, elle se dissout par des... En fait, le fait qu'elle soit éclatée en plusieurs petits groupes fait qu'aucun de ces petits groupes n'arrivera à 10%. Et c'est ça, c'est terrible. Vous imaginez quand même le Parti Socialiste, le parti qui a gouverné la France pendant un certain nombre d'années.
Mais il a fait 6% à la présidentielle.
Oui, non, mais je veux dire, il est maintenant dans une élection comme les élections, et en plus un parti européen, parce que les socialistes ont toujours été un parti européen, et qui et aujourd'hui fera toute force rassemblée, quand on fera les additions, on fera 10-12% en mettant 3-4 listes ensemble.
Peut-être plus, d'ailleurs.
Il y aura les écologistes.
Il y aura les écologistes. Bon. Mais aussi, si on parle de campagne de l'Europe, il faut aussi dire que l'Europe ne s'est jamais aussi mal portée. Donc c'est difficile de faire campagne pour l'Europe aujourd'hui, en dehors de faire campagne pour l'euro. Ça, c'est plus facile, parce que les gens ont peur de l'explosion de l'euro. Mais vous savez, faire campagne dans le Brexit, avec l'Italie, qui est ce qu'elle est, avec l'Est européen, qui manie beaucoup le populisme, c'est le moins qu'on puisse dire, avec une Allemagne, dans laquelle on voit le règne Merkel disparaître. Et avec en plus des chiffres, c'est l'ensemble du rêve européen qui est quand même en cause dans cette campagne, et c'est pour ça finalement qu'on n'en parle pas tellement. C'était encore un grand rêve, je peux vous dire que beaucoup en parleraient.
Oui, Catherine. Le couple franco-allemand n'est plus du tout ce qu'il avait été. D'abord parce que, comme tu le dis, Madame Merkel est en fin de course, et puis celle qui est peut-être son successeur, l'actuelle présidente de la CDU, elle n'est pas du tout européenne, et elle ne veut surtout pas parler d'Europe en ce moment, parce qu'elle veut réconcilier son aile droite, enfin rassembler les gens. Donc, et Emmanuel Macron, qui l'autre jour, on l'a vu au dernier Conseil européen, il dit des choses sur l'Europe. C'est vrai, c'est lui qui a raison. Mais on ne peut pas avoir raison tout seul. Quand vous avez tous des pays qui, pour une raison ou pour une autre, ne veulent, dans le fond, se contentent.
Moi, je crois que c'est pour
des raisons de politique
lieu.
Intérieure, se contentent de ce qui se passe aujourd'hui.
Tous les pays
aujourd'hui,
jouent la politique intérieure. Ce tu dis montre que tous les pays ont d'abord la politique intérieure. C'est notre cas avec le Front National et la France En Marche. Mais c'est le cas, effectivement, de... Alors, dans l'Angleterre, où on voit les élections locales qui ont blackboulé les conservateurs, les deux, les conservateurs et les travaillistes. Bon, qu'est-ce qui reste ? C'est vrai que faire des élections en Angleterre pour l'Europe qui vont quitter, c'est quand même...
C'est
on est arrivé quand même au comble
chapitre.
De l'absurde, quoi.
L'Europe à bout de souffle, hein, Gérard ?
Oui, non, mais c'est ce qui est... Il y a aussi quand même le mot qu'on n'a pas prononcé ce soir, qui est le mot du populisme. Est-ce que c'est effectivement... Est-ce qu'on va voir, à travers cette élection européenne, ces élections européennes, est-ce qu'on va voir le développement véritablement d'un populisme à la française ? Alors certains diront, on l'avait déjà. On l'avait déjà avec le Front National, devenu Rassemblement National. Mais avec le phénomène des Gilets jaunes, qui est... d'une certaine manière, par certains côtés, rejoint aussi des formes de populisme, est-ce qu'on va avoir un bloc populiste s'affirmer et représenter en France 25%
aussi, ce qui serait intéressant aussi, c'est de savoir s'il y a une liste jaune et combien elle fait, quand même.
Exactement. On va voir si elle est validée. Les listes devaient être déposées jusqu'à 18h ce soir.
On attend la liste de Lalanne, alors.
Et j'ai eu Francis Lalanne au téléphone cette semaine. On verra si d'autres listes gilets jaunes seront candidates pour ces élections européennes.
Alors, on va les compter, là.
On va les compter, effectivement. On va voir en vrai combien ils pèsent. Gérard Carrero, merci beaucoup. Michel Cotta, Catherine Ney, très beau week-end à vous. Très belle soirée, évidemment.
Merci.
19h56, c'est l'heure de retrouver Karima Charny. Ça va, Karima ?
Bonsoir, Mathieu. Bonsoir à tous. Ça va très bien, et vous ?
Très, très bien. Comment ça va ?
Bah, au top. Hein,
on surtout... écoute quoi ?
Bah, ce soir, on va célébrer un triste anniversaire. Ça fait 32 ans qu'une légende de la musique nous a quittés. On va célébrer l'anniversaire de Dalida, de la disparition de Dalida. Mais comme d'habitude, à notre sauce dans musique.
Laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter en liberté.
On parlera également de Catherine Ringer.
Je vous vois, Karima Charny, mais ici, tout le monde danse aussi. Hein.
Ah. mais personne ne peut se retenir sur du Dalida, voyons.
À votre sauce, donc jusqu'à 22h.
Absolument.
En musique,
et en
sur
direct.
Europe 1, en direct, évidemment. Ombline, un excellent week-end à vous.
Merci Mathieu Béliard et à lundi 17h dans une minute, l'information avec Isabelle Mier sur Europe 1. Europe 1.